premier sur l'info, l'info locale.
Et il est 7h30, tout de suite, les titres de votre journal local présenté par Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous. La vente d'alcool de nouveau autorisée à partir de lundi, mais sous certaines conditions. Ce n'est pas encore officiel, mais l'arrêté est en cours de rédaction. Après 10 jours de cours à distance, changement de stratégie annoncé hier par la Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements, il n'y aura pas de livret papier à partir de lundi prochain. Ils seront remplacés par des programmes éducatifs diffusés dans les médias. Les explications dans ce journal.
Coronavirus, pas de nouveaux cas, 978 dépistages depuis le début de la crise.
Pas d'évolution dans les chiffres du coronavirus au Fénois ce jeudi. Toujours 55 cas confirmés de Covid-19 en Polynésie française. 978 personnes ont été dépistées. Le Fénois ne compte toujours qu'un seul patient hospitalisé pour des complications liées au coronavirus. Il s'agit d'une personne originaire de Papara. Par ailleurs, aucun décès n'est à déplorer. Je vous rappelle que l'État a lancé une campagne de dépistage massif au Fénois, notamment à Tahiti et Moréa, destinée à toutes les personnes présentant des symptômes ou ayant une profession à risque.
La vente d'alcool partiellement rétablie dès le lundi 20 avril, Wallis.
Il aura fallu moins de 3 semaines et l'arrêt de la production de la brasserie de Tahiti pour faire changer de pied le gouvernement sur l'interdiction de vente d'alcool. Le Conseil des ministres s'apprête à prendre un arrêté pour permettre la vente d'alcool de 2 à 14 degrés uniquement. Ainsi, dès lundi 20 avril, il sera possible de passer commande auprès des exploitants de débit de boissons uniquement par Internet ou aussi par téléphone, également sur un site d'enlèvement de type Drive. La vente ne sera autorisée que du lundi au jeudi, de 8h à 16h. La quantité d'alcool sera enfin limitée à 10 litres de bière et 5 litres d'autres boissons d'alimentation, telles que les vins ou les cidres. À noter que dans les archipels, les limites sont les mêmes, mais les détaillants n'ont pas l'obligation d'organiser ce type Drive.
La continuité pédagogique, version 2.0.
Le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports a présenté hier après-midi la deuxième phase de la continuité pédagogique. Les responsables ont présenté toutes les ressources validées par l'inspection pédagogique et disponibles sur les différentes chaînes de télévision et de radio, accessibles à tous les élèves. Ces nouveaux programmes enrichis permettent désormais de ne plus distribuer des livrets papier à compter du lundi 20 avril. Ces programmes sont donc pour l'instant préparés pour 2 semaines et la DGE travaille déjà sur la programmation au-delà. Écoutez son directeur Thierry Delmas.
L'idée, c'est de compléter ce que les enfants peuvent avoir, les jeunes peuvent avoir avec leur établissement quand ils sont connectés, mais de les compléter pour ceux qui ne sont pas connectés par vraiment des programmes télévisuels, radiophoniques qui ont été validés par les inspecteurs, qui ont été validés par les enseignants et qui sont mis en place par la DG2E. On travaille déjà sur la programmation après les 15 jours. On s'inscrit dans la durée, on essaye d'anticiper une éventuelle prolongation. On est toujours entre 90 et 100% d'élèves contactés. On essaye de voir comment on pourrait déconfiner progressivement les écoles, les collèges, les lycées. Déconfiner, ça veut dire de mettre tout le monde en sécurité, à la fois sanitaire, mais aussi au niveau des transports, etc. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on y travaille.
Le directeur général de la DGE, Thierry Delmas, a souhaité également saluer la mobilisation des personnels de l'éducation durant cette crise sanitaire. Et Thierry Delmas a aussi rappelé qu'aucune note chiffrée ne sera donnée aux élèves durant ce confinement et que des précisions sur les examens seront communiquées dès qu'elles seront connues.
La distribution du courrier dans les boîtes postales reprend dès aujourd'hui, Wallis.
Hier, le président Edouard Fritsch et le haut-commissaire Dominique Saurin ont visité des installations de la filiale de l'OPT à Papeete et Faa pour faire le point, bien sûr, sur cette reprise pour l'instant très partielle. La distribution du courrier en boîte postale devrait tout de même reprendre progressivement à partir d'aujourd'hui. Rappelons que la mise en place du confinement avait provoqué l'arrêt complet de la distribution. Pour Mahé Hanou, chef d'agence par intérim, il était important de définir des procédures qui protègent les employés en la matière. Falerata a dû adapter son activité au contexte de crise sanitaire. On l'écoute au micro de Charles Irénée.
Les sociétés ne peuvent plus venir, comme auparavant, déposer dans une agence le courrier. Aujourd'hui, ils sont obligés de mettre le courrier à l'intérieur d'un carton, coacher et mettre la date. Suite à cela, ils déposent directement sous la tente. Un agent de Falerata réceptionne le carton, effectue la première décontamination. Les cartons sont mis dans des chariots et ensuite confinés dans les différents box. Ils ont 48 heures, voire 3 jours. Voilà. Suite à cela, ils sont traités, mis sur la table de tri et puis dispatchés dans les différentes agences en fonction de la destination.
Falerata est depuis le début de cette crise sous la pression des entreprises, banques et administrations qui ont besoin de la distribution du courrier pour fonctionner, ou celle du Osaria qui dès le 26 mars a exigé une reprise à minima de la distribution postale. Mais d'après le directeur Benjamin Teihotu, c'est avant tout l'exigence de sécurité qui a primé.
Alors, on combine en fait la consigne générale du pays et du commissariat de rester confiné. En même temps, la consigne également du haussariat de ne pas arrêter l'activité économique. Donc, il faut trouver un équilibre entre ces deux contraintes, ces deux consignes. Et principalement, ce qui importe pour moi, c'est d'offrir des services, mais tout en préservant la sécurité de mes salariés et de mes employés.
Dominique Sorin et Edouard Fritsch en ont profité également pour saluer la montée en puissance du traitement du courrier. Pour le président du pays, l'important est surtout que la Poste puisse continuer d'assurer sa mission. Écoutez-le.
On est content de la continuité du service, hein, puisque il faut surtout pas empêcher les gens de communiquer, de pouvoir envoyer du courrier, de pouvoir recevoir des colis. Toutes sortes de choses circulent en fin de compte. Hein. Vous avez des mandats, des feuilles d'impôt aussi, qui sont, c'est important pour le pays que les feuilles d'impôt que nous émettons puissent arriver aux contribuables. Et donc, Forerata, effectivement, a mis en place son service réduit, avec toutes les précautions qui vont avec.
Côté financier, il est encore trop tôt pour dire comment l'OPT va traverser la crise, explique son PDG Jean-François Martin. A noter que le confinement a fait baisser de 80% l'activité du groupe.
Dans une interview exclusive accordée à Radio 1, Gaston Flosse a réagi sur la guerre menée par le pays contre le Covid-19.
Depuis le début de la crise du Covid-19, Gaston Flosse a écrit pas moins de 10 lettres ouvertes à Edouard Fritsch, Gaston Tongsong et Dominique Sorin. Il leur reproche principalement un manque de leadership et de ne pas avoir su anticiper le matériel médical. Le président du Tawera s'interroge également sur la stratégie sanitaire du pays et de l'État dans cette crise, dans des lettres ouvertes restées pour l'essentiel. Sans réponse, on l'écoute au micro de Caroline Perdray.
Je n'arrête pas donc de leur adresser cette lettre, dont la dernière encore, qui date d'hier, dans laquelle je dis, mais attention, le confinement, c'est bien, c'est très bien, c'est essentiel, il faut commencer par ça, mais il n'y a pas que ça. Le test sérologique est vraiment au point, il représente de nombreux avantages, et ensuite, il y a le port du masque dans les lieux publics, ça c'est le minimum.
Concernant le confinement en Polynésie, pour Gaston Flosse, il n'est pas question de le remettre en cause, mais il plaide pour l'utilisation massive du test sérologique ainsi que pour le port obligatoire du masque dans les espaces publics.
D'abord, c'est donc le test, et puis le port du masque, et puis la chloroquine. Que voulez-vous, c'est le seul médicament que nous avons en attendant que le vaccin sorte. On peut commencer déjà à déconfiner chez nous. On peut déjà dire à certaines personnes, bon, allez au travail, ça va, puis on continue quand même à les suivre, faut pas les abandonner parce que ça peut revenir.
Le président du Tawera se déclare aussi favorable au retour des Polynésiens bloqués à l'extérieur du pays.
S'ils veulent revenir, qu'ils reviennent parce qu'ils veulent être auprès de leur famille, s'ils sont malades, ils ont peut-être des parents malades, puisque l'avion est payé sur la continuité territoriale. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il revienne également.
Dans son dernier courrier adressé à Edouard Fritsch, daté du 14 mars, Gaston Flosse martèle « Nous sommes en guerre, s'il y a deux chefs, nous perdons la guerre ». Gaston Flosse se montre également très critique du rôle de l'État et déplore par exemple que la Polynésie n'a reçu aucun renfort de Paris. L'outre-mer, on s'en fout éperdument, regrette-t-il.
À la fois victime et agresseur, c'est pour violence conjugale qu'un homme et une femme se sont retrouvés hier en comparution immédiate.
Les faits sont simples, un homme, une femme, le couple est séparé mais se voit de temps en temps au domicile de Justin. Quand il rentre du travail, Justin explique vouloir juste se détendre. Un jour, Ina, alors que Justin rentre du travail, lui demande s'il a ramené de l'herbe. L'homme énervé lui explique qu'il n'a rien à fumer. Effectivement, les protagonistes s'adonnent régulièrement à ce type de plaisir. Plus tard, Justin retrouve un stick d'herbe, il l'allume mais en propose à Ina, sauf qu'elle n'a plus envie de fumer, il lui fait savoir en lui tournant le dos. Les hostilités commencent alors, Justin lui enfonce son doigt dans les côtes à plusieurs reprises, puis s'empare d'un oreiller et la frappe avec. La femme s'empare alors d'un couteau et le frappe au niveau de la bouche. S'ensuit une véritable échauffourée. Au final, Justin place un couteau sous la gorge de Ina afin de lui faire lâcher le sien. Elle obtempère, résultat hématome temporal, œdème à la joue, ecchymose au bras, blessure au cuir chevelu et sur les jambes pour Ina, et balafre pour Justin, 5 jours d'ITT pour chacun. Justin. Hina a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Quant à Justin, eu égard à son casier judiciaire, il a écopé de 10 mois de prison, dont 4 avec sursis avec mandat de dépôt. Voilà pour ce journal, il est 7h40. Ce journal a été préparé par la rédaction de Radio 1 et de Thierry FM. Merci de l'avoir suivi.